CFM Rhodes, deuxième numéro de l'émission Les Chroniques Financières, présentée et animée par Steve Bono, qui est dans le métier, qui travaille à Rhodes dans ce milieu, ex-trader. Steve, c'est ça. De quoi on va parler aujourd'hui? De quoi on va parler cette semaine?
Alors, on va parler aujourd'hui du profil d'investisseur.
Alors, profil, quoi, je veux dire, je me tourne d'un côté ou... Non, c'est pas ça.
Moi, c'est un petit peu ça. Ah bon? En fait, c'est pour bien comprendre, en fait, les différentes caractéristiques, les différentes facettes d'un individu qui va investir. Et ces facettes sont importantes parce qu'elles vont permettre au conseiller de déterminer, en fait, le portefeuille qui est en phase avec ces facettes de l'individu.
On va faire de la psychologie?
Un petit peu.
Bon, alors, allons-y. On commence comment?
Alors, on revient un petit peu rapidement en fait sur les quatre piliers de la méthodologie qu'on avait brièvement évoqués lors de la dernière émission. En l'occurrence, le profil d'investisseur et l'établissement du projet d'investissement. En deux mots, pourquoi on investit? Le plan d'investissement et l'adéquation profil-projet. Donc, une fois qu'on a les objectifs, il faut dérouler la stratégie et comprendre comment on va partir d'un point A pour arriver vers un point B. Mmh. Le partenariat client-conseiller. Très, très important, c'est jamais quelque chose, en fait, le conseiller ne lâche jamais la main du client. C'est un accompagnement tout au long de la période d'investissement.
D'accord.
Et finalement, le suivi du portefeuille, très, très important aussi, parce qu'il faut s'assurer à tout moment que le portefeuille est toujours structuré pour permettre au client d'atteindre ses objectifs.
C'est-à-dire, quitte à changer un petit peu son plan, ce qui était prévu 15 jours avant?
Pas tout à fait son plan, mais simplement la répartition des différentes classes d'actifs dans le portefeuille. Pourquoi? Parce que, par exemple, si les actions performent ou marchent très bien, mécaniquement, la proportion des actions dans le portefeuille va faire qu'on va augmenter au fur et à mesure relativement aux autres classes d'actifs et il va falloir faire ce qu'on appelle en fait un arbitrage. Donc, d'accord, on va vendre un petit peu d'actions pour racheter peut-être des obligations ou de l'immobilier, de sorte que les grands équilibres du portefeuille ne soient pas changés.
Ouais, les grandes proportions.
C'est ça.
Ok. Alors, le profil d'investisseur, Steve.
Le profil d'investisseur, c'est vraiment la phase initiale. C'est pour le conseiller de bien cerner quelles sont les principales caractéristiques de son client. C'est une sorte de boussole qui va permettre au conseiller, donc, et ça j'insiste beaucoup, c'est tout au long de la relation. C'est pas quelque chose qu'on fait ponctuellement au début de la relation, c'est quelque chose en fait qui est vivant, c'est-à-dire qui va être alimenté et nourri par les événements qui vont impacter la vie du client au fur et à mesure que son portefeuille ou que ses investissements prennent vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Mmh. Et donc, cette boussole va nous permettre à nous conseiller de calibrer et d'ajuster la structure du portefeuille pour que ce dernier reflète donc les caractéristiques et les contraintes propres au client.
Jusque-là, je suis.
Bon, très bien. Alors, le profil d'investisseur dépend de quoi? Il dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, donc, la connaissance que le client a des produits dans lesquels il va investir.
Ouais, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont hyper connaisseurs, enfin qui croient l'être, qui connaissent tous les termes, tous les noms, tous les types de choses qu'on peut acheter ou vendre.
Exactement.
Et d'autres moins, voire pas du tout.
Voilà, donc c'est une connaissance, des gens qui suivent l'actualité financière, des gens qui suivent les marchés, etc. Donc ils développent une connaissance des produits. Ils savent ce que c'est une action, ils savent ce que c'est une obligation, de l'immobilier, des devises, des choses comme ça.
C'est juste, Steve, là, par rapport à votre expérience personnelle, c'est quoi la proportion des gens qui touchent vraiment bien?
Je dirais que à peu près, ça doit être 40-60. 40% des personnes ont une culture financière.
D'accord.
Voilà. 60% ont entendu parler, évidemment, sans pour autant savoir comment tous ces instruments fonctionnent dans le détail.
J'aurais pas dit autant.
Oui, mais je pense qu'il y a quand même une bonne culture. Après, encore une fois, avoir accès à l'information financière, c'est beaucoup plus simple maintenant que ça n'était il y a quelques années. Mmh. Et donc, ça se retranscrit dans ce ratio. Alors, pourquoi c'est important d'essayer d'appréhender le niveau de connaissance théorique du client? Parce que c'est difficile pour nous de faire investir à des clients, de leur faire investir sur des produits qu'ils ne connaissent pas.
Mmh. Oui.
Donc, il faut qu'on démarre quelque part. Et on va se caler sur la connaissance qu'a le client des produits dans lesquels il va investir pour structurer un portefeuille de base.
Pour ça, pour connaître un petit peu leur niveau de connaissance, vous leur faites faire un quiz?
Oui, exactement. Il y a un questionnaire.
Ah, d'accord.
Voilà. Okay. Il y a un questionnaire donc, que chaque conseiller a. Et c'est un questionnaire qui est réglementaire. C'est-à-dire que dans le questionnaire, il y a une structure de questionnaire qui répond donc à des études Enfin, il y a des études qui ont été faites pour pouvoir en fait extraire de l'information des réponses fournies par le client.
D'accord.
Oui, c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà, donc première étape, évaluer la connaissance du client. Et alors c'est très important aussi parce que tout ça est lié aussi à des notions, on va dire irrationnelles quelque part, qui sont des notions de peur, tout simplement. Ouais. Quand on ne connaît pas les choses, eh ben on les appréhende un petit peu, ce qui est normal. On est humain, on n'est pas des robots. Ces émotions, il faut quand même les prendre en compte parce que ça ne sert à rien de faire investir des gens sur des supports qui vont les faire paniquer. L'idée, c'est quand même d'accompagner les clients dans leurs objectifs. C'est du temps long. Et donc, il faut limiter au maximum, en fait, l'anxiété et l'angoisse que peut provoquer un investissement sur des supports que l'on ne maîtrise pas.
D'accord, oui. Donc ça, en fonction aussi du profil de chacun, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être plus ou moins par psychologie.
Exactement.
Ok.
Exactement. Et d'ailleurs, dans la structure du questionnaire, il y a cet aspect psychologique aussi qui revient. C'est normal. Alors, la connaissance... C'est le premier facteur. Deuxième facteur aussi très important, l'expérience. Parce que là, on a une connaissance empirique, donc une connaissance qui vient du fait que le client a déjà investi sur des marchés, donc a déjà été confronté à de la volatilité. Alors, j'explique la volatilité, simplement le risque de voir les marchés bouger à la hausse ou à la baisse.
La baisse, ouais. Voilà. Des mouvements forts ou importants.
Voilà, des mouvements forts ou
dans
importants.
Dans tous les sens.
Voilà. Et cette volatilité, et je reviens un petit peu sur la partie psychologique, c'est très intéressant parce que ça touche, encore, il y a deux émotions majeures qui dominent de toute façon le comportement humain quand on est investi, la peur et l'appât du gain. Et oui.
Et oui.
Et donc, en fait, quand le marché va contre vous, vous avez tendance à avoir peur, ce qui est normal, surtout quand vous maîtrisez moyennement en fait, le produit. En revanche, quand le marché va dans votre sens, vous avez tendance à croire que ça va monter jusqu'au ciel.
Bah oui, on rajoute une petite couche. C'est un peu trop gourmand, comme on dit.
Exactement.
Okay.
C'est exactement ça. Et donc, il faut le maîtriser, ça. Il faut l'encadrer. Parce qu'en en fait, on essaye d'avoir des décisions qui sont le plus rationnelles possible. Donc, on limite, on maîtrise en fait les aspects irrationnels et donc on essaie de contenir la peur et l'appât du gain. Et c'est pour ça, alors on reviendra dans une autre émission en fait sur la nature du risque en investissement parce que c'est vraiment fondamental et puis c'est surtout passionnant.
Ouais, ouais, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Ouais. Avec plaisir donc.
Troisième point, et on l'a un petit peu évoqué lors des deux points précédents, la psychologie du client. Et là, on parle de quoi quand on parle de la psychologie du client? Donc, pour les investissements, c'est son appétence ou son aversion au risque, c'est-à-dire son attrait ou sa répulsion pour la prise de risque. Mmh. On n'est pas tous égaux vis-à-vis du risque. Certains d'entre nous aiment bien prendre du risque, évidemment dans l'idée de récupérer plus de rendement sur leur investissement. D'autres, en revanche, ne sont pas du tout à l'aise avec cette prise de risque.
Ouais, n'en veulent voire même quasiment pas du tout.
Voire quasiment pas du tout, effectivement.
Sûr.
Et alors, c'est marrant parce que c'est toujours en fait quelque chose à réconcilier. Parce que les clients, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent ne pas être à l'aise avec le risque, mais ils vous demandent quand même de faire le rendement le plus important.
Et oui. Et donc, le beurre et l'argent du beurre.
On n'invente rien, hein, je veux dire, les expressions parlent d'elles-mêmes quelque part. Hein. Et donc, le travail du conseiller va être vraiment d'essayer de faire prendre conscience de ce décalage au client. C'est-à-dire que voilà... on va devoir expliquer, on va devoir parler et souvent, on va devoir aller être en contradiction avec le client. Et alors, pour le conseiller, c'est une position un petit peu délicate.
Oui,
voilà,
mais on ne va pas forcément dans son sens.
Exactement, on ne va pas forcément dans son sens, mais c'est quelque chose d'indispensable. Mmh. Il faut, quand c'est nécessaire, indiquer au client qu'il a tort. Et c'est aussi ça qu'on attend d'un conseiller, c'est justement de pouvoir pointer du doigt là où ça ne va pas.
Et vous, en général, pareil, je reviens à votre pratique personnelle, professionnelle. Bon, en général, ça va plutôt dans le sens de dire aux gens, bon, attendez, vous voulez gagner 20% par an, derrière, il y a du risque, on n'y arrivera pas sans que vous ayez des insomnies toutes les nuits et que vous fassiez un infarctus au bout de 3 mois.
Exactement.
Ok.
Exactement, mais parce que c'est très courant, en fait. C'est humain, quelque part aussi, de la part du client, de vouloir maximiser son rendement,
bah, oui.
On comprend.
Ouais.
Mais il y a des réalités aussi... auquel le conseiller doit, que le conseiller doit prendre en compte et surtout faire comprendre au client que ce qu'il demande, un, n'est pas réalisable et puis surtout ne lui conviendra pas. Et là, j'ai plein d'anecdotes, c'est-à-dire des gens qui se disaient par exemple trader. Donc, c'est quoi être un trader? C'est quelqu'un qui va prendre des positions agressive sur des marchés, dans des fenêtres relativement
courtes.
Beaucoup aiment se sentir capable de faire ça,
ouais.
Mais en réalité, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque le marché va à leur encontre, ils paniquent.
Et oui.
Ils vous rappellent toutes les deux minutes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui n'en dorment plus.
Oui, oui.
C'est pas le but de la manœuvre.
Bah non.
Là, quand on fait de l'investissement, il faut que les gens, un, comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils le font et qu'ils soient d'accord avec ça, d'un point de vue psychologique, irrationnel et de gestion des sentiments. Il ne faut pas que le client en perde son sommeil, parce que sinon, ce qu'on me disait tout à l'heure, fatalement, passe un moment, va arriver un point où il dira « Non, moi, je ne peux plus accepter ce niveau de risque, je vais reprendre mes billes et on aura, en fait, on aura failli dans notre mission, quelque part.
Ouais. »
Donc, c'est très important d'établir, en fait, ce profil psychologique du client.
Là, vous avez pareil, tout à l'heure, vous avez fait allusion à un questionnaire. Dans le profil psychologique, vous avez des grandes typologies de psychologie qui correspondent à des études, parce que tout ça, c'est vachement étudié. Hein.
C'est très étudié.
Ouais.
Alors, on ne va pas sortir un profil psychologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les clients dans une case, bah, tiens, celui-ci, il est... Voilà. On va simplement avoir une sorte de graduation qui va nous dire, voilà, le profil psychologique du client fait en sorte qu'il peut accepter un niveau de risque important. On n'est pas des psychiatres ou des psychologues, hein, c'est beaucoup plus simple que ça,
en
réalité. Et dernier point, donc, pour compléter le profil d'investisseur, mais un point qui est aussi fondamental, c'est qu'évidemment, il faut connaître la structure du patrimoine du client. Parce que le patrimoine du client va avoir un impact fort sur sa capacité à accepter ou subir des pertes financières sur ses investissements et également sur sa capacité psychologique à encaisser en fait, la pression liée parfois à des investissements sur les marchés financiers.
Mais leur structure, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire forcément le niveau du patrimoine.
Non, ça veut dire, par exemple, on va typiquement regarder son patrimoine financier, c'est-à-dire ses actifs liquides. Dans la plupart du temps, en fait, c'est les actifs qui vont lui permettre d'assurer son train de vie quotidien. Donc, son revenu professionnel, son épargne. Est-ce qu'il a des revenus complémentaires? Par exemple, typiquement, des revenus de biens immobiliers ou de placements existants. Son patrimoine immobilier, est-ce qu'il est propriétaire de sa résidence principale? Est-ce qu'il est locataire? Est-ce qu'il a d'autres biens qui sont en location ou d'autres biens familiaux, par exemple? Et puis aussi, son revenu professionnel. Est-ce qu'il est propriétaire? Est-ce qu'il est dirigeant d'une entreprise? Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il est entrepreneur?
Sa situation professionnelle.
Exactement. Par exemple, typiquement, si on prend quelqu'un qui est entrepreneur, il va falloir regarder aussi, est-ce qu'il a des couvertures pour tout ce qui est accident du travail, des choses comme ça? Parce que tout ça va avoir un impact, en fait, sur sa capacité à prendre du risque.
Ouais. Par exemple, oui, un entrepreneur, il n'a pas forcément droit au chômage, donc il prévoit le coût. Et donc, ce n'est pas pareil qu'un salarié fonctionnaire.
Précisément.
D'accord.
Précisément. Donc, il va falloir qu'on analyse aussi, en fait, ben voilà, il a mis en place des formules de prévoyance, il a mis en place des formules d'épargne, etc., etc. Et toutes ces informations vont être traitées et vont nous permettre donc de définir le profil d'investisseur. Qu'on va classer ensuite entre des clients qui vont être défensifs, c'est-à-dire qui ne vont pas vouloir prendre et qui ne vont pas pouvoir prendre trop de risques, des clients plus équilibrés et des clients plus agressifs.
Ok.
Alors, comment est-ce qu'en fait, on va déterminer ce profil d'investisseur? Je l'ai dit, on utilise le questionnaire, mais pas seulement. On a aussi d'autres documents qu'on appelle un recueil d'informations clients, qui va lui servir beaucoup plus à récupérer des informations sur la structure patrimoniale ou sur le patrimoine. Donc le questionnaire, c'est plus de la psychologie, de l'expérience et de la connaissance. Le RIC, comme on appelle dans le métier, en fait.
Ah, parce que sinon, le RIC, moi, ça me fait penser à autre chose. Au moment des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne, oui.
Voilà, bon. C'est intéressant.
C'est pas pareil.
C'est un petit peu différent,
D'accord.
Là, ça va être vraiment beaucoup plus pour récupérer de l'information patrimoniale.
D'accord. Donc là, il faut compter sur la sincérité de la personne.
On y arrive, et ça, c'est très important
aussi.
Eh oui. La problématique que peuvent ressentir certains clients, ce qui est tout à fait normal, c'est que souvent, ce sont des questions intrusives.
Ben oui.
Donc là,
vous avez d'argent?
Eh oui, mais c'est indispensable.
Ben oui.
Comme on l'a vu juste avant, il faut qu'on puisse faire ce profil. Parce que de ce profil ou de la justesse de ce profil va découler en fait toute la stratégie et toute la structure du portefeuille.
Bien sûr.
Et effectivement, alors surtout en début de relation, ça peut être problématique.
Bah ouais, parce que tout le monde n'aura peut-être pas envie de vous dire qu'il a 250 pièces d'or au fond du four.
C'est ça, c'est ça.
Dans la cuisine.
Et alors, Avec les clients domestiques, les clients retail, c'est déjà compliqué. Mais avec les clients privés, c'est encore pire. Parce que là, vous ne pouvez pas compter en fait, avoir toute l'information au départ. C'est juste pas possible. Donc, mais pourtant, c'est vraiment indispensable. Et alors, deuxième point, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que ce n'est pas, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose en fait, qui se fait tout au long de la relation. C'est-à-dire qu'on va avoir cette discussion avec le client de manière régulière. Voilà. Parce que toutes les informations vont venir enrichir le profil. Pourquoi ? Parce que simplement, il peut se passer des choses dans la vie qui vont venir impacter la structure du patrimoine.
Un héritage, un divorce.
Un divorce, quelqu'un qui gagne au loto, ouais. Un enfant, un nouveau travail. Donc tout ça va avoir vraiment un impact important sur le profil d'investisseur. Donc il faut le faire. C'est important. Autre point que je voudrais souligner, pour que les clients comprennent bien, c'est que tout ça se fait dans un cadre de stricte confidentialité.
Ah bah oui.
Et voilà. Et c'est vraiment... Alors, c'est déjà difficile, en fait, de partager ces informations, mais il faut que les clients soient rassurés. Ça ne sort pas du contexte professionnel. C'est-à-dire qu'on s'interdit formellement de discuter des caractéristiques du client en dehors... en dehors même du bureau.
Oui, de ce rapport entre vous et la personne.
Voilà, ça c'est de la déontologie et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà, ce sont des informations de nature confidentielle et ça le reste tout au long de la relation. Et un autre point qui est important et qui est souvent pas mis ou pas traité à sa juste valeur, c'est la partie pédagogique. C'est-à-dire qu'au cours de ces discussions, vont naturellement se poser des questions sur les différents instruments qu'on va utiliser dans les investissements. Et là, le conseiller a aussi un rôle de transmission de connaissances. Petit à petit, le client va être mis en confiance. Son niveau en fait, de connaissances à la fois théorique et empirique va augmenter avec ses discussions avec le conseiller. Et du coup, petit à petit, son profil va évoluer.
Oui, il va apprendre.
Il va apprendre. Voilà. Et ça, c'est vraiment important.
Ouais, ouais.
Et personnellement, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée aussi du dialogue et de la relation entre le conseiller et son client.
Oui, on ne commence pas par présenter des produits un peu complexes, compliqués, à quelqu'un qui n'y connaît rien.
Précisément.
On va l'y amener peut-être au fur et à mesure.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Et ça, c'est cette qualité, en fait... Alors, moi, c'est cette qualité d'empathie, c'est-à-dire que le conseiller doit avoir cette capacité, quelque part, de se mettre dans les chaussures du client.
au sens figuré, hein, pas au sens propre.
Oui.
Si possible. Enfin, vous faites comme vous voulez, Steve.
Non,
ça ne me regarde pas, c'est confidentiel. OK.
Non. Donc voilà, ce sont vraiment des... C'est pour ça. Et alors, voilà, ce qui est important, c'était de bien poser ce cadre-là pour que tout le monde comprenne que c'est pas simplement le métier de conseiller, et là j'insiste beaucoup parce que c'est souvent quelque chose qui est mal perçu. Le métier de conseiller, c'est pas de lire la boule de cristal. Personne ne peut le faire, personne n'est capable de le faire.
Enfin, il y a des dames dans des caravanes, elles disent qu'elles le font, mais c'est pas votre boulot.
C'est pas mon boulot.
Ok.
Mais voilà. Alors on y reviendra quand on parlera du risque, mais. Pourquoi c'est impossible? Tout simplement parce que les marchés sont tellement efficients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les marchés sont une énorme machine à traiter l'information. Donc, toute l'information qui est publique va être traitée par les marchés et retransmise sous forme de prix. Et donc, c'est très difficile, en fait, d'être meilleur que
l'ensemble
de tout le monde.
Oui, c'est-à-dire, Ronaldo, il est super fort, mais tout seul, il se ferait éclater par n'importe quelle équipe.
C'est un peu ça.
D'accord.
C'est un peu ça.
D'accord.
Alors, ce qui est intéressant sur ce point de vue-là, et je reviens en vitesse sur le film Wall Street, dont on a parlé dans la première émission. Quand vous regardez bien ce film, ce qui est très intéressant, c'est de voir, en fait, que donc, le personnage principal n'investit en bourse que lorsqu'il est sûr. Et il est sûr parce qu'il a une information que les acteurs de marché n'ont pas, ce qui est illégal.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je ne suis pas sûr que ce soit légal, mais d'accord.
Non. Voilà, mais c'est pour ça.
Ou non pas encore. Ouais.
Il est propriétaire d'une information confidentielle.
Il est initié, comme on dit.
Exactement.
Okay.
C'est ce qu'on appelle un délit d'initié en français. Voilà, donc c'est très important, quand vous venez voir un conseiller, n'attendez pas de lui qu'il vous dise comment ça va se passer. On peut avoir une idée. Mais il faut quand même garder tout ça dans des proportions très, très... Enfin, il faut être vraiment très, très prudent sur ces choses-là. Ce qu'on sait faire, par contre, c'est essayer de protéger justement le risque que le portefeuille a dans le sens contraire de celui qu'on attend.
Se couvrir, comme on dit.
Se couvrir, se protéger à la baisse.
Et on y reviendra sans doute.
On y reviendra, oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Et donc, dernier point, en fait, à quoi ça sert ? Tout simplement d'avoir un profil d'investisseur. Ouais. On l'a un petit peu évoqué, mais grosso modo, un profil d'investisseur, ça nous donne un audit. C'est un audit de l'ensemble des caractéristiques du client, psychologique, connaissances et expériences, et patrimoniales. Donc, c'est un outil qui va permettre au conseiller de structurer un portefeuille qui est en phase avec l'ensemble des caractéristiques du client qu'on vient de citer. Cette notion est importante.
C'est pour faire du sur-mesure.
C'est du sur-mesure. Mmh. Et c'est un outil aussi qui va permettre de faire évoluer le portefeuille donc au fur et à mesure que se développe le dialogue entre le conseiller et son client. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quelque chose qui est continuellement nourri par les discussions entre le conseiller et son client. Et c'est un outil qui est basé sur du temps long. C'est toujours une relation de temps long d'investissement.
C'est-à-dire, temps long pour vous, c'est combien ?
Plusieurs années.
D'accord.
Ça peut être 5, 10, 15, 20 ans.
OK.
On n'est pas dans du trading. C'est-à-dire qu'on construit avec le client une stratégie de long terme.
Un projet.
Exactement. D'accord. C'est indispensable. Donc, et pour moi, tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, cette activité de profilage, cette capacité à l'empathie, c'est vraiment le cœur de la valeur ajoutée du conseil.
Ouais. J'imagine.
C'est le côté humain.
Et on comprend mieux. Oui, bien sûr. Ouais,
c'est
bien
le côté
sûr.
Humain. Mmh. Et j'en profite pour faire une petite allusion. Donc, on parle beaucoup des robots advisors en ce moment, donc de la digitalisation, quelque part, du conseiller financier.
Mmh.
Oui, c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique. Ces applications sont disponibles 24 heures sur 24. Mais il manque en fait tout ce dialogue et cette interaction entre le client et son conseiller qui est une énorme source de valeur ajoutée.
Parce qu'il y a donc des logiciels qui apprennent à vous connaître après un questionnaire et qui derrière vous proposent des investissements ?
Non, alors il y a des logiciels qui apprennent à vous catégoriser.
Ouais.
Absolument. Et qui ensuite vont simplement lier cette catégorie à un portefeuille type.
D'accord, ouais, ouais.
Voilà. Mmh. Alors, ces logiciels, effectivement, ils sont très simples et très pratiques, parce que, voilà, ils sont là 24 heures sur 24, voilà. Mais ils peuvent difficilement répondre à des questions.
Oui.
Et puis surtout, ils peuvent pas encore, peut-être que ça sera le cas dans le futur, mais pour l'instant, ils peuvent pas encore accumuler vraiment beaucoup d'informations sur ce qui se passe, en fait, dans votre vie de client. Sur votre profil psychologique, toute cette partie humaine, c'est pas encore vraiment disponible sur ces applications-là.
D'accord.
Ça viendra certainement un jour, mais pour l'instant, on n'y est pas. Voilà, ce que je voulais dire en faisant cet aparté, on y reviendra parce que la digitalisation, c'est quelque chose qui va, on va devoir en discuter de toute façon plus en détail.
C'est en cours.
C'est en cours. Mmh. C'est pas quelque chose qu'on peut arrêter comme ça. Mmh. On y reviendra, mais voilà, le cœur vraiment, ce côté de cette capacité à l'empathie, c'est ce qui fait la qualité de la relation entre le conseiller et son client.
La relation humaine.
La relation humaine, toujours et encore.
Même dans le monde de la finance.
Surtout dans le monde de la finance. Rappelons-nous, la peur, l'appât du gain sont des deux émotions primordiales qui dominent
oui,
tout.
Je vois très très bien, chacun d'entre nous voit très très bien ce que vous nous dites. Ça nous fait penser à des expériences particulières.
Exactement. Voilà. Ce qu'on fera lors de la prochaine émission.
La semaine prochaine, Steve. C'est comme ça que c'est prévu. Hein.
Okay. Absolument.
Ouais.
On va expliquer un petit peu, donc plus en détail, ce qu'on attend en réalité de la relation conseiller-client et en particulier dans l'établissement du projet d'investissement. En l'occurrence, on va essayer de répondre à la question pourquoi on investit. Et là, le client a une énorme valeur ajoutée. Là, c'est plutôt le client qui va travailler.
D'accord.
Mais vous serez surpris, il y a assez peu de personnes qui réfléchissent
vraiment
à ces objectifs.
Ce qu'ils veulent.
Ouais.
Eh bien, écoutez, vivement la semaine prochaine. Merci beaucoup, Steve Bonneau, pour ce deuxième numéro de Les Chroniques Financières sur CFM Rhodes. Je rappelle que la première, et puis celle-ci dans toutes les toutes prochaines heures, sera retrouvée en podcast sur le site cfmradio.fr. Merci, Steve.
Merci, David. À bientôt à la semaine prochaine.